sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Nous sommes le vendredi 20 mai 2016 et si vous nous rejoignez, merci d'être fidèle à Un autre jour est possible. Notre semaine consacrée au cinéma français à l'occasion du festival de Cannes s'achève avec le 5e et dernier épisode de notre série consacrée à la France, vue par les cinéastes contemporains, une série d'un jeune réalisateur fraîchement diplômé de la FEMIST, Christophe Nanga-Oli, dans un instant. Et puis tous les vendredis, vous le savez, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois Thomas Azuelaos, qui a cette particularité d'avoir obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Attendez, comment un dessinateur, un auteur de bande dessinée peut-il décrocher une Palme d'Or à Cannes? Eh bien, on vous explique tout ça aux alentours de 6h15. Un autre jour est possible, moteur, ça tourne.
Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains, une série avec Christophe Nanga-Oli.
Bonjour Christophe Nanga-Oli.
Bonjour.
Aujourd'hui, dernier épisode de cette série, Portrait de la France à travers 5 metteurs en scène et 5 filmographies. Et aujourd'hui, donc Virgile Vernier, réalisateur connu pour un long métrage, Les Mercuriales, on en a beaucoup parlé. Mais vous, vous avez vu tous ces films, ces courts, ces longs, ces documentaires. Et à partir de ces films, vous voulez parler du folklore qui fait retour dans le contemporain. Qu'est-ce à dire ?
Virgile Vernier, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des rites populaires, qui va les observer, qui va les disséquer. Pour montrer comment la société dans laquelle on vit est innervée par ces différents mythes. Et en même temps, il va s'intéresser à une société française contemporaine, actuelle, multiculturelle, et le choc du présent avec ce passé qui ne passe pas va produire une espèce comme ça de division. Il va montrer en quoi la société est divisée. Et je crois que ce qu'il montre, grosso modo, c'est que la société française est divisée parce qu'elle est composée de gens qui n'ont pas forcément le même passé.
Donc c'est une problématique identitaire. C'est-à-dire, c'est quoi l'identité française et comment partager un héritage quand on a des racines d'ailleurs?
C'est délicat. Je pense pas non plus que ce soit réellement son enjeu. Mais si je pense à un film comme Orléans, je crois qu'il y a de ça. C'est-à-dire que les deux personnages principaux d'Orléans sont deux jeunes filles, une russe qui a décidé de vivre en France, donc qui a décidé d'être française, et une française qui s'appelle Joanne. Ces deux personnages-là sont des hôtesses. Elles travaillent dans un club de charme à Orléans et ont des aspirations. La première, la russe, voudrait ouvrir un salon de coiffure et la seconde voudrait devenir une danseuse respectable et monter dans la capitale.
Ici, à Notre-Dame des Miracles, pendant tout son séjour, les 10 jours qu'elle a passés ici à Orléans, Sainte Jeanne d'Arc est venue prier. Jeanne trouve la force d'aimer l'Église jusqu'à la fin, même au moment de sa condamnation, car ce sont des hommes d'Église qui ont condamné Jeanne. Pas terrible pour nous. Et le pape commente en disant, eh bien, ça veut dire que l'Église a toujours besoin de se purifier. Accueille, Seigneur, en la fête de Sainte Jeanne d'Arc.
L'histoire du film va se passer le jour ou dans la période des célébrations de Jeanne d'Arc à Orléans. Et ce qui est assez beau, c'est comment cette fête populaire va faire ressurgir le mythe de Jeanne d'Arc, comment le film va nous montrer que ces deux personnages-là sont deux figures possibles de Jeanne d'Arc, et comment ces filles-là vont, en tout cas, ces deux parcours féminins vont se développer jusqu'à se séparer, choisir deux voies différentes pour représenter ce mythe. C'est-à-dire que la Russe, elle va tracer sa route comme une héroïne, continuer à travailler dans ce club en espérant un jour ouvrir son salon de coiffure, et la Française, qui s'appelle Joanne, va subir une crise mystique, et on ne sait pas réellement ce qui va devenir d'elle, si elle va décider réellement de monter à la capitale ou si elle va subir une espèce de crise un peu folle comme ça. Le film n'oublie pas.
Aïe. Ah, regarde, la fille le ramenait à boire.
Ce qui est très beau dans ce film, c'est que le film commence sur des images médiévales d'époque, c'est-à-dire des représentations de Jeanne d'Arc, des représentations de la ville d'Orléans, c'est-à-dire un plan médiéval de la ville d'Orléans. Et très vite, on va basculer sur des images plus contemporaines, c'est-à-dire des cités HLM, délabrées, déjà en ruine, d'Orléans. Et ce qui agit, c'est qu'on sent que quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, Jeanne d'Arc, elle émerge dans une France en guerre. Et ce qu'on voit dans les images contemporaines de la France que Virgile Vernier décide de nous montrer, c'est un paysage en ruine. C'est un paysage en ruine, des bâtiments délabrés, des habitations désolées. Et très vite, on bascule dans ce club à hôtesse qui est une France dans la crise. C'est un enfer, ce club. C'est un enfer, malgré tout, ce club. Même si le film ne le montre pas comme tel, ne le désigne pas comme tel, c'est un enfer pour ces filles qui veulent, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir, quoi. À la manière de Jeanne d'Arc.
Tu as l'air au chaleur ou pas?
Pourquoi pas beaucoup?
Mais parce que je suis tranquille.
Tu es pas une petite fille, quand même.
C'est vrai, la question était une petite fille, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir 3 kilos de gel.
Mais tu travailles où? Tu travailles pas à l'école, tu travailles comme danseuse, quand même.
Virgile Vernier, c'est un cinéaste un peu particulier. C'est un cinéaste qui passe comme ça, du court au long, puis il rebascule au court. C'est un cinéaste qui passe... Du documentaire au journal filmé, au cinéma de fiction, sans se poser de questions. C'est un cinéaste toujours cohérent. Je veux dire par là que son cinéma s'organise comme un réseau de signes. Ce qu'il essaye toujours, c'est de révéler des mythes. Là, tout à l'heure, j'ai parlé d'Orléans. Je pourrais parler aussi de Thermidor, qui s'organise autour d'un personnage qui se dit royaliste. Le film commence comme ça sur la colline de Belleville, que le personnage désigne comme la montagne sacrée. Il discute avec un Africain qui l'écoute et qui tout de suite déploie ce discours qui commence sur le sacré vers son rapport au catholicisme et à la colonisation. Dans le sens où il se dit catholique parce que son pays a été colonisé. Et très vite, dans ce dialogue, il y a une folie qui apparaît. Cet Africain déclame d'une manière complètement violente et on a quelque chose d'un peu bizarre qui apparaît comme ça. On va suivre ce personnage, on va suivre un peu ses délires un peu royalistes, le fait qu'il ait une épée chez lui et non un glaive, il se déploie comme ça un espèce de discours un peu courtois. Et puis on va le retrouver dans une cérémonie religieuse un peu particulière à l'honneur de Louis XVI. Donc une espèce de messe comme ça en l'honneur de Louis XVI. Il va se retrouver après ça dans une réunion de royalistes. Et là, toute sa bizarrerie va apparaître. Pour les royalistes, il n'est pas royaliste. C'est juste un marginal, c'est juste un punk. Alors on ne sait pas si ce personnage-là, c'est un royaliste punk. On ne sait pas si c'est un mythomane. En tout cas, Ce dont on est sûr, ou ce dont on peut être sûr, c'est que ce personnage-là, c'est un chevalier. C'est un chevalier. Un chevalier un peu bizarre, un chevalier d'un autre temps. Mais juste parce que ce personnage-là, c'est un chevalier, ça dit quelque chose sur le monde dans lequel on vit.
Monseigneur, mes meilleurs vœux, je présente la dame de mes pensées étoilées, Ingrid. Mes meilleurs vœux de justice, d'amour, et vous les transmettre aussi à la princesse de Joinville. Eh ben, je vais bien, je songe souvent à vous, Monseigneur.
Si je parle de son travail documentaire, je peux parler d'un film comme Pandore. C'est un film un peu différent, mais il y a quelque chose, il y a déjà une énergie. Ça, c'est valable dans tous les films de Virgile Vernier. Il y a une énergie qui est contenue déjà dans le titre. Tout à l'heure, je parlais de Thermidor et de ce chevalier, mais peut-être c'est un chevalier révolutionnaire, vu que le film s'appelle Thermidor. Mais pour revenir à Pandore, le film nous place directement dans une situation. On est devant la porte d'un club et on va regarder, on va observer comment un visualiste de club décide de qui va entrer et de qui, ou de qui ne va pas entrer dans le club.
Messieurs, dames, bonsoir.
Nous sommes quatre.
Qui ça ? Les gars, vous étiez invité par quelqu'un ou pas ?
Comment ?
Vous étiez invité par quelqu'un ou pas ? Je ne peux pas vous recevoir, je suis désolé. Pas ici.
Bonsoir. Ah, on est quatre.
Vas-y.
Bonne soirée.
Je vous écoute.
Ça, on vient boire un verre.
Vous êtes tous les quatre ?
Ouais.
C'est un grand groupe, je vous avoue.
Comment ?
C'est un grand groupe et j'ai déjà beaucoup de monde à l'intérieur.
Et dans ce film, comme dans tous les films de Virgile, j'ai l'impression que vont se développer des lois spécifiques au lieu, quoi. Je veux dire par là que dans ce club, on a une micro-société qui se met en place. C'est-à-dire, il y a une séparation entre ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne peuvent pas rentrer. Donc, ce que Virgile Vernier va nous montrer, c'est que c'est encore une fois une société divisée. Cette fois-ci, non pas sur une différence de classe ou d'identité, mais juste sur une différence d'élection.
Ça me
faisait
quelques
joyeux. Je suis avec le monsieur qui est là-bas.
Et... Ouais, mais non, vous êtes trois. Vous êtes trois. Vous rentrez à deux.
Dans les trois.
Ouais, mais il y a une demoiselle. Et puis en même temps, si vous voulez faire mon boulot, vous n'avez qu'à venir. Ce que je veux dire. Donc voilà, c'est deux. Puis cette réflexion-là.
Et une fois de plus. Ce film propose de nous montrer un folklore, quoi. Une manière. Quand je dis folklore, c'est une manière d'agir d'aujourd'hui en société. Et tout ça, voilà, tous ces espèces d'événements créent ce que j'appelle un espèce de folklore qui ressurgit aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment, dans notre moment, dans notre présent, où on s'interdit tout archaïsme, tout rapport au folklore, quoi.
Merci, Christophe Longaoli.
Merci. The R.O.D. gets deep on something, it's awful, it's awful, it's pain on the buttonness. Full of that self-discovery, can't discover me, God alone governs me. I know they don't like the word, but I shall observe and I shall do service. Here in the pulpit, the dub po-po, oohs and knows it, the twitch is low. Get to the blackness, get to the facts, the poor don't relax, the poor do funk, it's so clap. Twist and adapt, turn to Jesus black, cause we believe it's that way. Full of that, know me, spirit, can't control me, spirit, can't console me, spirit, get to know me, spirit, get to grow me, spirit now. Yeah, prepare for who and the wherefore, the stab and the tearful, being tearful, ever so careful, full of the feeling, revealed in the latest hot heat, the cleavage, knockout, knocking it out, you know, hide the salami, dropping it out, no dough, keep flopping it out, keep thinking of a master plan, do for must, ensure I can, shall expand with the brand of the anti-brand, that nobody likes us, the true survivors, rolling in spite of,
being the most misunderstood. Run the good, bad and ugly. We keep it cuddly, stay in the tugby, pulling the rugby, cannot mug me, can't outplug me.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, avec Thomas Azuelos pour Le Comité, une bande dessinée éditée par Kombourakis. Et c'est adapté librement d'un roman égyptien de Sonallah Ibrahim. Bonjour Thomas Azuelos.
Bonjour.
Comment résumer cette histoire ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire égyptienne dans le cœur de l'histoire contemporaine égyptienne, ou vous préférez plutôt partir d'un personnage, d'un destin ?
C'est le destin d'un personnage qui s'inscrit dans peut-être pas dans l'histoire de son pays au sens d'une suite d'événements qu'on pourrait dater dans l'histoire récente, mais en tout cas qui s'inscrit dans l'ambiance, là je parle du roman pour l'instant, qui s'inscrit dans l'ambiance d'une époque des années 80, donc où Sadat venait de mettre en prison pas mal d'intellectuels, donc l'ambiance était vraiment était pas rose à cette époque-là. Donc ça imprègne tout le livre. Après, le livre est quand même il est hors de l'histoire. Il utilise des références un petit peu documentaires, mais il ruse avec ça. Et en fait, en réalité, il se situe totalement hors de l'histoire, hors d'une période historique. D'ailleurs, moi, je me suis affranchi de la date des années 80. Le roman se situe, était publié en 81. Moi, je le fais partir de 1981 pour arriver en 2011. Donc, je suis réellement sorti de cette période historique et voilà.
Alors, ce qui intéressait Sonallah Ibrahim, c'était aussi de montrer comment l'Égypte va basculer d'un système à l'autre, d'un système d'un socialisme très très étatique à un libéralisme tout aussi spécifique. Vous, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire ? Comment partir d'un récit de Sonallah Ibrahim pour parler de l'Égypte d'aujourd'hui ?
Alors moi, je ne sais pas si je voulais particulièrement parler de l'Égypte d'aujourd'hui. Il se trouve que c'est un pays que j'aime beaucoup, et ça a été un des romans clés pour ma découverte aussi de l'Égypte. Mais moi, ce qui m'a intéressé spécifiquement, c'est que dans le roman, le pouvoir et la relation au pouvoir est au départ extrêmement difficile à cerner. Et puis, on se rend compte en lisant le bouquin que le pouvoir est totalement intérieur à l'individu et que tout est affaire de croyance. Et que, par exemple, ce que Sonallah Ibrahim appelle le comité, et que moi j'ai réutilisé dans ma BD, n'est pas un tribunal, n'est pas une force de police, n'est pas... Le comité est seulement là pour garantir que chaque individu a une croyance dans le pouvoir, une croyance que chaque individu a intériorisé la soumission au pouvoir. Et c'est ce rapport-là au pouvoir et à l'autorité tutélaire, etc., qui m'a intéressé, parce que je découvrais, d'abord, quand j'ai passé quelques temps en Égypte, je découvrais la manière dont on intériorisait le lien à une dictature, à un grand chef, etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'au départ, j'ai calé sur le livre, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à l'adapter dans un premier temps. Et il a fallu que ça explose en 2011, sur la place Tahrir, pour que je réalise que la croyance dans une figure tutélaire, dans un pouvoir extrêmement pyramidal, pouvait basculer du jour au lendemain, que dans les têtes, il suffisait qu'il y ait aussi un déclic pour que la figure paternelle éclate, quoi, pour qu'on tue le père. Et ça, c'est un truc, d'autant que je ne l'ai vraiment pas vu venir, en tout cas concernant l'Égypte, j'étais vraiment très très surpris. Bon, d'abord, je ne me tenais pas non plus très au courant de l'actualité politique avec finesse. Bon, en tout cas, j'ai été extrêmement surpris et ça a remis en route le projet pour moi. Je trouvais le livre à la fois extraordinaire mais très étouffant, très claustrophobe, comme peut l'être comme peut l'être l'écriture de Kafka, par exemple, et de mettre en perspective cet univers sous cloche, claustrophobe, avec l'explosion de 2011, ça me paraissait un moyen pour revisiter cette histoire-là. Et donc, du coup, pour moi, l'histoire dans ma bande dessinée commence en 81 et finit en 2011.
Est-ce que vous avez rencontré Salah Ibrahim avant de vous lancer dans cette adaptation très, très libre, puisque effectivement vous n'utilisez pas du tout la même chronologie égyptienne dans cette bande dessinée, Thomas Azulos?
Alors je l'ai rencontré, j'ai commencé d'abord à travailler sur le livre, j'ai travaillé un an et ensuite je suis allé au Caire pour le rencontrer. On avait déjà eu un échange parce que donc je lui avais déjà envoyé un courrier en 1997 quand j'avais commencé à travailler sur son roman, dont il se souvenait d'avoir reçu cette lettre longtemps avant. Et là, je suis allé au Caire pour le rencontrer. On a passé un moment vraiment extraordinaire. D'abord, lui était absolument ravi de voir que des gens avaient envie d'adapter son travail. J'ai senti beaucoup de solitude. J'ai senti chez lui beaucoup de difficultés. Et parce que je pense quand même qu'il évolue dans un monde qui le comprend assez peu et qui le considère pas à sa juste valeur. Il vit quand même dans un état de dénuement. Et voilà. Et donc, je suis tombé sur quelqu'un d'une très grande humilité, avec une tête d'hibou sage. Et très rusé, et donc il était tellement content de me recevoir. Donc j'ai commencé à lui raconter que moi, ma bande dessinée s'éloignait considérablement de la structure de son roman. Et là, il était très très content parce que il m'a dit je pense que sinon ça n'a aucun intérêt. Et je lui ai dit je pense aussi. Et voilà. Et c'est pour ça que aussi je précise que c'est librement adapté, librement inspiré de son roman. Donc je l'ai rencontré, on a passé un moment formidable. Et donc c'était en 2012, c'était déjà un an après La Place Tahrir, et voilà.
Et quand vous précisez que c'est une fable, Thomas Azulos, que raconte alors donc cette fable à partir des événements égyptiens, de destins égyptiens et d'un individu broyé, vous avez utilisé Kafka, c'est peut-être le mot juste, broyé dans un monde complètement kafkaïen? C'est vraiment la bonne référence, hein, plus que celle de Salah Ibrahim d'ailleurs.
Alors en fait, le roman, lui, se présente pas comme ça. Il se présente. Le roman ruse beaucoup plus avec un certain aspect documentaire. Il donne à certains moments donner des dates, des événements très précis qui s'inscrivent dans l'histoire, qui lui donnent une espèce d'assise documentaire. Mais je pense que c'est une ruse d'écriture parce qu'après, il s'en affranchit totalement et on part dans quelque chose d'absolument surréaliste. Et donc moi, j'utilise un petit peu ce procédé-là, sauf que comme j'ai une structure qui est très déroutante, je pense, au départ pour le lecteur, que je ne vais pas vous dévoiler, mais où je m'amuse avec l'image du héros et la déclinaison de l'image du héros que, en gros, je transforme. Je voulais que sur la couverture il y ait le mot fable parce que pour que ce soit une clé d'entrée pour le lecteur, que le lecteur s'attende aussi à être un peu dérouté d'emblée et qu'il faut un certain temps pour prendre ses marques dans mon histoire.
C'est aussi une manière de parler de l'Égypte, de représenter l'Égypte, le Caire, le peuple du Caire. Comment avez-vous fait pour travailler? Est-ce que vous êtes allé à partir de ce que vous avez vu lors de vos voyages au Caire, ou est-ce que vous avez mélangé un peu les deux, c'est-à-dire être imprégné par un texte, par des choses vues, et laisser votre imagination faire la synthèse des deux?
En fait, donc j'ai fait plusieurs voyages au Caire, en particulier j'ai séjourné au Caire pendant une année scolaire, je dis année scolaire parce que mes enfants allaient à l'école égyptienne. Et je faisais une bande dessinée à l'époque qui s'est appelée Akhenaton. Et donc j'ai beaucoup dessiné le décor, beaucoup dessiné les gens. Et en fait, c'est un décor absolument fantastique, le Caire. C'est un décor qui a son intérêt documentaire, mais c'est aussi un espace de fiction, comme peut l'être Marseille pour des raisons différentes, Marseille où je vis, comme peuvent l'être des très grandes villes, mais le Caire, c'est une ville tellement monstrueuse, tellement gigantesque, tellement que c'est vraiment un paysage aussi bien réel que fictionnel. Donc en fait, tous ces voyages et ce temps que j'ai passé au Caire, j'ai fait considérablement je l'ai beaucoup photographié. J'ai beaucoup photographié les gens, j'ai beaucoup dessiné les gens. Donc c'est le prolongement de tout ça. C'est vraiment le prolongement de choses que j'ai aussi emmagasinées dans ma tête, d'un foisonnement de détails, d'attitudes. Voilà.
Et puis enfin, pourquoi le noir et blanc ?
Alors pourquoi le noir et blanc ? Il y a un certain aspect roman noir, il y a un certain aspect presque policier, parce qu'il y a un rapport aux indices, il y a un rapport au dévoilement, il y a un rapport à un héros qui se cherche lui-même. Donc il y a certains codes, je voulais jouer avec certains codes, qui sont des codes aussi de la bande dessinée, et qui sont des moyens aussi d'accompagner le lecteur dans cette histoire qui sinon est une histoire très complexe. Donc c'est aussi un moyen d'utiliser des codes de la bande dessinée, et le noir et blanc en fait partie. Voilà. Et puis, pour moi, le Caire n'est pas une ville très colorée. Il y a des couleurs, il y a des motifs, il y a des tissus, mais après c'est aussi une ville très grise, très poussiéreuse, très. Donc je voulais qu'on soit quand même dans une atmosphère, pas dans une atmosphère chatoyante, en tout cas dans une atmosphère assez assez grise, noire.
Et vous avez utilisé qu'est-ce que vous avez utilisé pour dessiner?
Alors c'est principalement du numérique, bien que ça se présente pas comme tel, parce que ça ressemble plutôt à de la plume ou à du pinceau, mais c'est du numérique aussi parce que donc c'est de la palette graphique, parce que la palette graphique permet de travailler avec beaucoup de finesse sur le découpage, sur ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire sur l'assemblage des images, le montage, le rythme. C'est un outil fantastique pour ça, parce qu'on peut très facilement changer l'ordre des cases, des bulles, retoucher les textes, etc. Après, j'ai intégré aussi des matières faites à la main. Voilà, il y a aussi, je voulais aussi qu'il y ait de la matière, qu'il y ait du relief. Donc, j'ai intégré en numérique des matières faites à la main.
Le comité Thomas Azulos, c'est édité chez Cambourakis. Et c'est la fin de cette émission. On passe tout de suite au générique. C'est vous qui le faites, Thomas Azulos.
C'était Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem préparée avec Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre. Podcast et écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
Et en passant par franceculture.fr à la page de l'émission L'autre jour est possible, on peut trouver même le dessin que vous avez fait spécialement pour l'émission. Merci Thomas Azuelos. Excellent vendredi, excellent week-end et nous, on se retrouve bien sûr lundi.